Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Il est 8h, bonjour et bienvenue dans ce journal du 28 janvier 2016, les titres. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué dans une vidéo le rapt de Béatrice Stokely. Selon ACMI, l'otage a été enlevé par l'Émirat du Sahara, une de ses unités combattantes. L'organisation terroriste exige la libération de ses combattants en prison au Mali et l'un de ses dirigeants détenu à la CPI. La société civile de Tombouctou met en garde contre tout échange d'otages avec des prisonniers djihadistes. Elle estime que leur remise en liberté constitue un grand danger pour la sécurité des populations. L'association malienne pour la survie au Sahel veut impliquer la population locale dans le processus de réconciliation. Elle organise depuis hier un atelier de 2 jours à cet effet. Objectif, ouvrir une réflexion sur les dynamiques de réconciliation et de reconstruction à partir des populations locales. Ouverture hier à Bamako d'un atelier sur le financement de projets de partenariat public-privé. Il est organisé par le ministère des Investissements avec l'ambassade de la Grande-Bretagne, avec pour objectif le renforcement des capacités des cadres maliens dans le secteur public et privé sur le financement des projets. Fatmata Togola pour la présentation. Béatrice Stokely a été enlevée par l'Émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La ressortissante suisse a été kidnappée à Tombouctou dans la nuit du 7 au 8 janvier. Une vidéo a été adressée par ses ravisseurs à l'agence de presse privée mauritanienne Al-Akhbar. En échange de Béatrice Stokely, ACMI exige la remise en liberté d'un certain nombre de ses combattants en prison au Mali et l'un de ses dirigeants, Abou Tourab, détenu à la CPI à La Haye. Sekou Gadjogo nous en dit plus.
D'après Al-Akhbar, Béatrice Stokely apparaît dans la vidéo. Elle y décrit son rapt à Tombouctou et y reconnaît ses activités d'évangélisation. Béatrice Stokely, qui revendique sa foi chrétienne, était très impliquée dans les actions sociales à Tombouctou, où elle avait déjà été enlevée une première fois en 2012 par le groupe djihadiste en Sardine, avant d'être libérée 2 semaines plus tard. Malgré les mises en garde du gouvernement suisse, elle est retournée s'y installer en janvier 2013. Un porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères a indiqué que la Suisse demande la libération sans condition de la personne enlevée, en refusant de dire s'il y avait eu une demande de rançon. Le ministère suisse, qui a mis en place une cellule de crise dès l'enlèvement, a indiqué être en contact avec les proches de Béatrice Stokely et avec les autorités maliennes. À propos de la décision de la Suissesse de retourner à Tombouctou, le ministère a souligné qu'après l'épisode de 2012, il avait attiré son attention sur les risques élevés qu'elle encourait au Mali et lui avait expressément déconseillé de retourner dans ce pays.
Pour la société civile de Tombouctou, le gouvernement ne doit pas accéder à cette demande des groupes djihadistes. Selon elle, la remise en liberté de détenus djihadistes ne ferait qu'augmenter l'insécurité dans la région. Baba Moulaye est le secrétaire général du collectif Une Voix pour Tombouctou. Il est joint par Sekou Gadjogo.
Chaque fois que ACMI a enlevé, les gouvernants ont soit aidé à libérer, facilitant les paiements de caution ou en libérant en contrepartie les djihadistes contre les otages. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui ACMI formule cette revendication, c'est qu'elle sait que tôt ou tard, ou même en sourdine, le gouvernement et puis ses partenaires vont accéder à la demande qu'ils ont formulée pour avoir la libération. Nous, ce que nous allons dire en réaction, c'est toujours de déplorer, parce que c'est ça aussi. Des otages ont été libérés. Wadosan, à l'époque, avait été libéré pour permettre la libération de certains prisonniers d'autres États occidentaux. Donc, c'est un modèle auquel nous sommes habitués. Ça ne dit rien aux gens, alors que les gens ne prennent pas la mesure de la menace, parce que aujourd'hui c'est des Occidentaux, l'État est obligé d'accéder, et demain quand ils vont enlever les autorités nationales, les responsables maliens, on va libérer qui?
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter du studio Tamani.
Tamani.
Un atelier de 2 jours sur la réconciliation et la paix a débuté hier à l'hôtel Salam à Bamako. L'objectif de cette rencontre est d'ouvrir une réflexion sur les dynamiques de réconciliation et reconstruction à partir des populations locales. C'est une initiative de l'association malienne pour la survie au Sahel en partenariat avec ARGA. Écoutons Lassine Boiré, secrétaire permanent du comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Cet atelier s'inscrit dans une dynamique de réconciliation et de reconstruction par le bas. Une fois qu'on parle de réconciliation, on se situe au cœur de l'accord, parce que n'oubliez pas qu'un des volets de l'accord, justement, c'est la réconciliation. L'illustration de l'importance de cette thématique est l'existence de la CVJR, comme son nom l'indique, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les activités vont se dérouler sous forme d'exposés, sur la base des expériences des uns et des autres, et ensuite suivi d'échanges et desquels sortiront, je l'espère, des propositions et recommandations pour alimenter la recherche-action. Parce que n'oubliez pas, enfin, les meilleures actions, c'est celles qui auront été réfléchies bien avant, d'où l'utilité et la pertinence des recherches-actions qui seront menées.
Plus de 1000 dossiers de licenciement abusif dans les mines d'or sont actuellement devant les tribunaux maliens. Ces salariés contraints au chômage par les sociétés minières attendent d'obtenir leurs droits. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali suit l'évolution des dossiers mais regrette la non-application des décisions de justice déjà rendues. Amadou Namion Guido est le secrétaire général de la CSTM. Il est au micro de Imran Akilou Meiga.
Partout, les tribunaux effectivement ont été saisis et tous ces verdicts, les travailleurs ont gagné. Malheureusement, malgré les décisions de justice, ils ne sont pas encore entrés dans leurs droits. Certains n'ont même pas eu leur droit de licenciement. D'autres sont très malades, ceux qui sont contaminés par le plomb. Ce que nous regrettons, c'est que ce sont même les agents même de l'État, disons les démembrements du ministère du Travail et de la Fonction publique, qui ont autorisé ces licenciements. Et sur certains verdicts, il est bien noté que les coupables à ce niveau, au lieu d'être même les employeurs, ce sont certains directeurs régionaux de travail. Donc, qui représentent l'État malien, qui ont autorisé ces licenciements abusifs. D'abord, le motif n'y est pas et on ne licencie pas pour faire de grève. Et la procédure de licenciement aussi n'a pas été respectée.
Un atelier de deux jours sur le financement de projets de partenariat public-privé s'est ouvert hier à Bamako. Il est organisé par le ministère des Investissements avec l'ambassade de la Grande-Bretagne. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des cadres maliens dans le secteur public et privé sur le financement des projets. Madame Djakité Salimata Sangaré est chargée de mission au ministère de la Promotion des Investissements du secteur privé. Elle est au micro de Awa Berté.
Actuellement, le gouvernement malien est en train de faire un avant-projet de loi sur le partenariat public-privé. Donc ça sera un grand avantage pour qu'une grande masse de la population malienne puisse comprendre déjà le concept du partenariat public-privé et l'apport que le concept va amener quand la loi sera vraiment en vigueur au Mali. Nous espérons que tous les participants ici présents auront acquis les principes fondamentaux déjà du partenariat public-privé, les risques qui sont liés au projet de partenariat public-privé et quels sont les types de partenariat public-privé et comment s'y prendre quand on est vraiment un État qui débute dans le concept du partenariat public-privé.
Comment adapter l'agriculture au changement climatique? La question a fait l'objet d'une étude menée par l'Association malienne d'éveil au développement durable. L'ONG a restitué hier les résultats de son étude à la Commission développement rural de l'Assemblée nationale. La commission prévoit d'aller sur le terrain afin de mieux s'imprégner des enjeux du changement climatique. Bougouna Sogoba est directeur de l'ONG au micro de Alucina Batouré.
Ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est l'engagement d'un processus de réflexion en profondeur sur les problématiques les enjeux du développement rural, spécifiquement l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Il faut prendre des stratégies, des techniques concrètes pour réellement faire un changement au niveau de la parcelle des paysans, c'est-à-dire arriver avec l'accord des pouvoirs politiques et les départements techniques, principes fondamentaux d'accompagnement des populations dans la mise en œuvre de pratiques d'agriculture qui peuvent faire de la production agricole et qui s'adaptent aux différentes écologies du Mali, même si on est en zone de précarité des pluies. Les préoccupations des honorables députés sont de mettre en place un cadre de travail entre l'ONG AMED et la Commission pour aller en profondeur par rapport aux différents enjeux du développement rural et permettre à la Commission de pouvoir aller dans une zone, par exemple, pour regarder les réalités locales, écouter les populations et de pouvoir être informé en détail sur certains enjeux.
Le Mali s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la compétition en concédant le nul face à la Zambie. Les Aigles du Mali sont deuxièmes de leur groupe avec 5 points derrière l'équipe de la Zambie qui termine à la première place. En quart de finale, le Mali affrontera la Tunisie.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, les échos de nos régions. La deuxième session du Conseil régional de lutte contre le VIH s'est tenue hier à Mopti. Le bilan de ces activités a été rendu public. Plus de 500 personnes ont été dépistées, suivies d'une prise en charge des malades et des séances de sensibilisation. La rénovation des vestiaires du stade municipal Mamadou Diarra Hadj de Koulikoro a débuté hier. Initiée par la direction de la Ligue régionale de football, les travaux permettront aux joueurs de s'entraîner dans de meilleures conditions. La rénovation est financée par la famille Diarra Hadj. La maison du chef de poste médical de Djanké, Ania Funke, a été braquée par 5 hommes armés. Ils ont emporté les médicaments du CESCOM, plus 100 000 francs CFA et des biens matériels. Le même jour, deux boutiques ont également été dévalisées et 3 motos volées. Ceci me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie dans un instant, le magazine.